La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews.
De l'actualité.
Des chroniques, des reportages.
De la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Sans Ferriole.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Sans Ferriole et vous écoutez La Collective. Et c'est pour une émission spéciale, les cahiers de doléances de la vallée de la Drôme.
Doléances.
Doléances.
Les doléances.
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 Cahier de doléances.
Cahier de doléances.
Pour animer cette émission, donc c'est Loïc et Manu qui est à la technique.
Salut à tous.
Nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons le plaisir d'accueillir pour ce sujet aujourd'hui deux invités. Donc on a Laure Myriam Rouvier qui est journaliste, anciennement au journal Le Crétois et aujourd'hui journaliste indépendante, notamment pour Libération et Le Média Vert et qui a beaucoup travaillé sur ces justement cahiers de doléances dont on va parler aujourd'hui. Et Marie Pochon, députée écologiste NFP de la 3e circonscription de la Drôme et qui a porté une résolution transpartisane pour rendre public les cahiers de doléances. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Alors nous devions avoir un gilet jaune avec nous aujourd'hui, mais malheureusement voilà, il a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, mais on aurait bien justement voulu pouvoir les entendre aussi. Alors revenons 7 ans en arrière déjà. C'était il y a longtemps, mais c'était finalement hier. Nous sommes en octobre 2018 et des appels à manifestation se multiplient sur les réseaux sociaux. Avec pour origine l'augmentation de la taxe des carburants automobiles et puis d'autres revendications. Cela se passait généralement les samedis. Des gens répondent en masse en fait, à ces appels à manifestation, principalement issus des zones rurales et périurbaines. Avec en toile de fond bah, un sentiment de délaissement de ces territoires et plus largement même de déclassement. Ces contestations se traduisent notamment par des blocages des routes et de ronds-points et où le port des gilets jaunes de sécurité par les manifestants donne finalement leur nom à ce mouvement national. Dans la vallée de la Drôme, il y a notamment le rond-point de la Croix de Roman qui a constitué un des épicentres des manifestations ici. Et ce mouvement a démarré en novembre 2018. Enfin voilà, si mes informations sont bonnes, et a duré quand même plus d'un an. Donc c'est quand même assez, voilà, c'est assez énorme. Déjà, peut-être pour commencer, Laure Myriam et Marie Pochon, comment avez-vous vécu ce moment bien particulier ? Alors, peut-être Laure, vous étiez peut-être dans la région à cette époque-là.
Oui, j'étais là. J'étais souvent sur le rond-point. De la Croix de Roman, mais j'en ai fait quelques autres. Moi, j'ai vécu ça comme une fête, comme c'était comme une fête et une agora politique où les débats étaient permis, où des gens qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient pas forcément les mêmes opinions politiques se sont rencontrés et ont pu se former politiquement. Et je trouve que c'est quand même le grand apport du mouvement des Gilets jaunes, ça a été ça, une formation politique, parce que bon, des apports autre, il n'y en a pas eu, à part des apports de coups de poing et de violences policières, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Voilà, pour moi, ça a été la grande réussite de ce moment. Et puis tout ça s'est fait dans la joie. Et où j'ai vu des personnes qui étaient esselées à la base et qui ont retrouvé la force du groupe.
Combien de personnes ça pouvait rassembler sur ce rond-point-là ?
Ah bah sur le rond-point, bah Manu, tu étais aussi, je ne sais pas, c'était entre 50 et 300, je dirais ça, en tout cas à la Croix de Roman. Après, moi je me souviens d'une fois où j'étais sur un rond-point dans le sud, dans le Vaucluse, et là, je ne sais pas, il y avait, en plus c'était plein de gros camions qui avaient bloqué, enfin... Il y avait quantité et puis qualité aussi, c'était les deux. Donc je peux pas vraiment dire, puis ça dépendait des moments de la journée aussi. Voilà, et puis c'était familial.
Ouais. Et les liens, quelles étaient les relations avec les automobilistes, les routiers
Moi, j'ai plutôt vu des gens qui étaient en accord avec ce qui se passait, et donc des personnes qui ne pouvaient pas forcément s'arrêter, ou même des gens qui s'arrêtaient, qui se disaient « bon, ben, finalement, je m'arrête ». Et c'était plutôt des klaxons de soutien, même s'il y avait évidemment des personnes qui ne soutenaient pas. Mais je crois que ça représentait tellement les populations rurales et périurbaines que quasiment, enfin, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup trouvaient des accointances avec ce qui se passait sur les ronds-points. Et après, en fait, ce que je trouvais aussi intéressant, et bon, vu que je suis journaliste, j'ai aussi une approche médiatique là-dessus, c'est que pendant, on va dire, les 15 premiers jours, ça a complètement été mis en dehors des médias. On n'en a pas entendu parler ou très, très peu, alors que c'était un mouvement qui venait du bas. Et là, moi, je tirais mon chapeau à Florence Aubenas, qui est grand reporter et qui a été la première à aller voir ce qui se passait. Et quand elle est revenue, on lui a dit « Ah, c'est super ce que tu as fait ». Elle a dit « Mais attendez, être grand reporter, c'est aussi aller voir ce qui se passe à côté de chez nous. C'est pas forcément aller à l'autre bout du monde et je fais juste mon travail. » Et il se passe un mouvement social qu'on n'a jamais connu, enfin, depuis très, très longtemps, et on se doit d'y être sans être dans la caricature.
Mmh. Ok. Et Marie Pochon, comment vous avez perçu ce moment-là, cette crise-là? Vous étiez peut-être par ici ou peut-être pas dans
cette
région?
Alors non, à ce moment-là de ma vie, j'ai travaillé à Paris pour ma part et j'étais en plein préparatif. J'étais dans la vie associative, notamment sur les questions environnementales. J'étais très engagée sur ces questions-là. Et donc, ça faisait quelques mois que je venais de m'installer à Paris. On était en train de travailler sur ce qui s'appellera après l'affaire du siècle, c'est-à-dire ce grand recours en justice pour inaction climatique, pour carence en matière climatique, que plusieurs associations, moi je faisais partie de notre affaire à tous, étions en train de préparer contre l'État, qui après s'est accompagné d'une pétition, etc., qui a été la pétition la plus signée de l'histoire par ailleurs. Et donc nous, on était dans ces préparatifs à ce moment-là. Et je me rappelle très bien, effectivement, de l'émergence des Gilets jaunes. Alors, d'un point de vue de Parisien, pour le coup, effectivement, avec une grande absence de relais médiatique au début, enfin, tant que ça se jouait, en fait, sur l'ensemble des territoires, parce que c'est là où ça a émergé, effectivement, en réponse à la fois à la taxe carbone, à la fois... aux 80 km/h. Enfin, il y avait des choses qui bruissaient, en tout cas, depuis pas mal de temps. Et moi, d'origine drômoise, en tout cas, j'en entendais parler. Mais à Paris, ça ne se discutait pas. Et moi, j'étais très impliquée dans le mouvement climat, ce qu'on appelait le mouvement climat à l'époque, avec des marches massives de la jeunesse, etc., qui s'organisaient toutes les semaines à Paris, à partir de la démission de Nicolas Hulot. Enfin, tout ça prend place un petit peu au même moment. Et puis, effectivement, vient l'après 17 novembre, où les premières marches parisiennes, la première montée des Gilets jaunes à Paris, commencent à s'organiser les samedis, pour faire suite au vendredi, qui était dédié au climat. Et le samedi était dédié aux Gilets jaunes. Et donc tout ça commence à s'instituer. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à en entendre parler, en tout cas là où moi j'étais. Et moi, j'ai eu une relation très... c'était un peu particulier parce que j'étais dans un milieu où tout le monde se questionnait beaucoup sur ce qu'étaient ces Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils voulaient, quels étaient les soubassements politiques un petit peu de cette mobilisation. Parce que de fait, il y avait une grande méconnaissance, une grande défiance un petit peu de tout ce qui pouvait émerger, qui n'était pas contrôlé par personne. C'était vraiment, c'est ce qu'on peut appeler une révolte en vérité, une révolte populaire qui n'est pas encadrée par des centrales syndicales, par aucun parti politique, qui vient vraiment d'en bas, qui émerge vraiment des gens, de territoires dont on a très peu de connaissances en vérité, qui ne sont pas traités médiatiquement, qui ne sont pas traités politiquement non plus. Et toute cette expression tout d'un coup qui déferlait, on avait du mal à cerner quel était ce propos. Et donc je baignais dans ce milieu-là à l'époque, et en même temps, vu là d'où je venais, j'avais une très grande compréhension et très grande solidarité, en tout cas avec ce qui s'y exprimait. Donc c'était un peu étrange. Et puis très rapidement, dans mon rôle associatif, du coup, avec l'affaire du siècle, très rapidement, puisque un mois plus tard, nous, on lance notre pétition de l'affaire du siècle, et très rapidement, on est contacté par des centaines et des centaines de collectifs gilets jaunes partout sur le territoire national qui nous disent « Ah, est-ce qu'on peut imprimer votre pétition à l'arrière de notre pétition pour le RIC ?» Et donc, en fait, très rapidement, tous ces procès d'intention disant que c'était un mouvement d'extrême droite, qui ne voulait pas d'écologie, etc., en fait, ça s'est plutôt très rapidement démenti dans les faits, dans ce que j'en ai vécu, en tout cas, dans le travail que je faisais à l'époque.
Mmh. Bah, je vous propose qu'on se remette dans cette atmosphère du moment avec un morceau de D1ST1, Gilets jaunes, acte 2.
Jérôme, et la violence, je l'ai baptisée. Je récupérerai jamais mon œil, même quand sera cicatrisé. J'ai 10 ans, je suis venu avec mes parents sympathiser. Mais j'ai vu le policier taper sur ma main, je suis traumatisé. Je suis ce militaire, je sors dans un bar boire un verre. Mais la police est en colère, dans une minute je serai par terre. Je suis cet damagé, je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu qu'en ville je me fasse gazer pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions, je suis ce commerçant. Je suis gilet jaune à 100%, mais le samedi j'ai peur des passants. Je suis ce policier, je pense à rien quand je vous vise. À aucun moment je me dis que de l'autre côté c'est peut-être mon fils. J'ai un message à faire passer aux forces de l'ordre. N'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une phrase des droits de l'homme? Comment pouvez-vous crever un œil ou arracher une main, puis le lendemain apprendre à votre gamin ce que peut être le bien? Sans compter les préfets qui au médic bloquent l'accès. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz, pour être sûr qu'on n'aura ni casque, ni lunettes, ni masque. Et même si tu vis bien, que t'as pas besoin de militer, rejoins les gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Y'a de l'entraide et du partage, je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police que l'on doit se défendre. Combien de cabanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres? Des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Dans le cortège c'est joyeux, y'a de l'amour, les gens chantent. Et puis un policier jette une grenade parce que ça l'enchante. Donc tu peux marcher et t'en prendre une dans les pieds. Concrètement dedans y'a 25 grammes de TNT. Tu peux venir manifester puis finir amputé, parce qu'on fait peur à tous ces politiques et tous ces députés. Si je peux me permettre, plutôt que d'appeler la banlieue, il serait temps d'ouvrir les yeux et de réclamer des choses pour eux. Sachant que la violence policière qu'on vit depuis quelques semaines est dénoncée depuis des dizaines d'années au pied des HLM. Comprenez, il faut casser tous ces fossés. Ils ont divisé pour mieux régner, pour mieux nous enfoncer. Mais on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau.
Après pas moins de 2 mois de crise sociale sans précédent, des maires de petites communes ont eu cette volonté de renouer le contact avec les manifestants. L'Association des maires ruraux de France avait appelé à ouvrir les mairies et à recueillir les doléances des citoyens. Dans la vallée, les premières doléances ont été écrites à partir de décembre 2018, de ce qu'on a récupéré comme, voilà, comme contribution. Mais c'est surtout en janvier-février que cela a vraiment pris de l'ampleur. De là a été lancé le grand débat national, avec d'ailleurs la possibilité de contribution en ligne. Mais la plateforme de l'État avait été un peu critiquée avec des rubriques fixées et donc qui allaient à l'encontre un peu de l'esprit des cahiers de doléances au début. En parallèle, j'ai pu lire, justement, c'était sur le Dauphiné, justement que le 16 février 2019, les Gilets jaunes de Cré étaient au centre-ville et affichaient un grand panneau avec écrit « Qu'y a-t-il de Gilets jaunes en vous ?» et invitaient les passants à écrire ce qu'ils souhaitaient. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose qui m'a marqué aussi, il y avait aussi écrit sur ce tableau « Les Gilets jaunes sont là pour tous. Désolé pour le dérangement, nous essayons de changer la France. » Et je trouvais que cette phrase était assez forte. Et le résultat, il est impressionnant. Hein. 20 000 cahiers qui ont été ouverts en France, plus de 200 000 contributions rédigées à la main. Donc autant de gens qui sont venus, qui ont pris leur stylo, qui ont fait cet effort de contribuer. Et si on prend les contributions en ligne, c'est plus de 2 millions. Enfin, c'est assez énorme. Mais 7 ans plus tard, que sont devenues ces dizaines de milliers de contributions, juste si on parle de celles qui ont été écrites à la main, et qui se souvient de ce moment unique de consultation du peuple. Pour cela, je vous propose un micro-trottoir. On est allé à l'écoute des habitants de la vallée de la Drôme, au marché de Cré. C'était à la fin du printemps.
Doléances.
Ça vous dit quelque chose?
Non, pas vraiment. doléances. Déjà, nous, en Martinique, quand on fait des doléances, c'est après une tristesse. Est-ce que ça veut dire bien ça? Et le mot doléance, je veux le décrire, doléances.
Bon, on n'y est pas encore, mais continuons avec d'autres passants.
Bah, moi, ça me fait penser à l'amour.
Ah oui?
Non, c'est les condoléances.
Ouais, mais toi, le mot doléances,
moi, je... Là, plus marrant. Pour dire des choses qui ne vont pas, faire des plaintes,
ah bon,
faire des réclamations.
Ah, c'est ça, doléances.
Cahier de doléances, oui.
Ah. Eh ben, pour moi, des doléances, ce sont des souhaits. Des souhaits parce qu'on n'est pas très satisfait de quelque chose, soit parce qu'on n'aime pas ce qui est là, ou qu'on a d'autres envies, d'autres idées. Et du coup, on fait des doléances et on demande à ce que ce soit différent ou d'autres choses. Quoi. Voilà.
Si je vous dis cahier de doléances, ça vous rappelle quelque chose?
Ah ben oui, un cahier de doléances, bah oui, voilà. C'est-à-dire, en général, un cahier de doléances, il est rempli à plusieurs personnes. Quoi. C'est un cahier qui est... Ouais, qui est mis à disposition de plusieurs personnes pour mettre bah voilà, les souhaits, pour faire changer les choses ou améliorer.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces cahiers de doléances?
Que c'était une belle arnaque et que c'est bien dommage que ça ne soit pas arrivé au bout de ce qui devait être fait. Quoi. Mais bon, avec Macron, il fallait s'y attendre.
C'est comme si on s'était foutu de... Des gens, on leur fait remplir un cahier en pensant qu'on va leur faire quelque chose en fonction de ce qu'ils ont demandé. Et puis en fait, on met tout dans le tas et on ne regarde pas.
Est-ce que vous avez participé au cahier de doléances?
Non, 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 pas du tout. Non, parce que je suis au niveau national, machin, tout ce qui se passe. J'y crois plus, moi, j'y crois plus, c'est fini. Tous, hein, tous, mais tous dans le même sac.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, non.
Ça, vous vous sentiez pas concerné forcément ou...
Pas du tout, je fais ma petite vie et puis point barre. Voilà.
Pas moi, non, j'ai pas fait.
Ok, c'était une volonté enfin, comment vous auriez des choses à dire justement en termes de doléances?
Oh ben oui, sûrement. Encore que moi je suis dans les... Allez, on peut dire que je suis dans les privilégiés.
Vous aviez participé d'ailleurs à
non.
L'époque? Pour quelle raison? Mais... Vous n'avez pas forcément de sujet ou...
Si, j'aurais eu des sujets, mais en fait, je ne l'ai pas fait par négligence, je pense.
Alors, est-ce que... Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'avais participé? Ah ben, je ne me souviens plus. Ben, je suis assez militante, ça s'est impliqué dans pas mal de trucs, et du coup, je ne sais plus ce que j'ai signé, fait, rempli. Je ne sais plus.
Vous savez ce que sont devenus, d'ailleurs, ces cahiers de doléances?
Je n'en sais rien, mais je suppute qu'ils sont dans un tiroir bien au fond. Peut-être qu'ils seront exhumés un jour par d'autres, je ne sais pas. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, ils n'ont absolument pas tenu compte, enfin, j'imagine.
Alors, j'ai vu que Mme Pochon avait essayé de les ressortir dernièrement, mais globalement, ça a été enterré quelque part. Il n'y a rien de surprenant dans l'histoire.
Vous trouvez ça quelque chose d'intéressant, cette démarche qu'il y avait initialement de consulter, consulter tout le monde?
Bah, la démarche, oui, c'est super intéressant. Mais c'est intéressant dans la mesure où on s'en occupe, hein, on s'en sert. Si on donne l'espoir aux gens que des choses vont peut-être être entendues et qu'en fait le cahier il est rangé au fond d'un tiroir, ça sert pas à grand chose et ça peut créer même de la frustration et de la colère. Donc voilà, pour moi c'est il y a honnêtement on dit on fait un cahier de doléances. Et on va examiner et on va se saisir de tout forcément, mais de certaines propositions. Soit on sait très bien pertinemment qu'on ne le fera pas, et dans ce cas-là, on ne fait pas de cahier de doléances. Voilà, c'est malhonnête et ça engendre j'ai colère et frustration et c'est pas bon.
Laure Meriem, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé justement sur ce sujet des doléances. En interrogeant les passants, on se rend compte que beaucoup ne savent pas ce que c'est exactement ce que c'est que les doléances. De quand ça date ce mot-là? Parce que ça date d'avant les gilets jaunes en fait.
Oh ben oui, je pense que tous ceux qui ont écouté un peu les cours d'histoire au niveau de la Révolution française savent que ça a commencé comme ça, la Révolution française, avec les cahiers de doléances en 1788. Mais les premiers ont lieu au XIIIe siècle. Premier, donc on est vraiment au milieu du Moyen-Âge, dans un monde très hiérarchisé, mais à un moment, on a demandé au peuple ce qu'il pensait de comment est-ce qu'il vivait. Voilà, donc c'est pas du tout les gilets jaunes qui ont créé les cahiers de doléances, mais ceux dont on se souvient le plus, évidemment, ce sont donc ceux de 1788 qui ont abouti aux États généraux et donc après à la Révolution française. Malheureusement, là, la France du 21e siècle, ça n'a pas donné tout à fait le même résultat. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'États généraux à la suite de la publication des cahiers. Parce que c'est ce que disait notamment Gilles Proriol, qui a analysé les cahiers il y a maintenant 7 ans, que les cahiers, il faut qu'ils soient là, et puis ensuite, on les analyse, et ensuite, on en fait quelque chose. Et donc, des États généraux. Et là, en 2018, 2019 ou 2020, il n'y a pas eu ces États généraux qui auraient permis de faire sortir et qu'il y ait un débat entre tous les citoyens, en tout cas avec des représentants des citoyens, autour de ces revendications qui venaient directement du peuple. Et c'est peut-être ce qui a manqué, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont disparu, c'est que peut-être qu'il y a une volonté politique qu'il n'y ait pas ce grand débat avec les propositions faites par le peuple.
On dit justement que ces doléances ont disparu. Elles sont où, alors ?
Elles n'ont pas disparu. Hein. Elles sont dans les archives. dans les archives départementales, dans les archives nationales, à la BNF. Donc, les doléances, qu'elles soient numériques ou papier, sont là. Elles existent. Elles ont été traitées à 85%. Elles ont été traitées en 2019 par un cabinet de conseil qui s'appelle Cogito. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont traité, ils ont analysé, ils ont fait des rapports. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Notre-Dame qui s'est enflammée. Et le jour où Macron devait parler des résultats de l'analyse des cahiers de doléances, Notre-Dame a brûlé. Et donc on est passé à une autre séquence politique. Et donc depuis, on a mis le couvercle dessus, et c'est très difficile, Marie pourra en parler mieux que moi, de faire ressortir ce sujet de stress, politiquement et médiatiquement, et j'en sais quelque chose médiatiquement.
Marie Pochon, qu'avez-vous pensé justement de cette initiative déjà des mairies d'ouvrir ces cahiers à ce moment-là?
Effectivement, l'ouverture des mairies, elle fait face des propos même des leaders de la MRF, enfin des représentants de la MRF, à une Élysée qui était fermée. L'Élysée était fermée et donc on a ouvert nos mairies. Et ça faisait face à des alertes qui avaient été posées par les maires ruraux déjà à l'époque, dès septembre 2018, donc avant même le début de la révolte des Gilets jaunes. La MRF alerte l'Élysée en disant « Attention, il y a un risque insurrectionnel dans nos campagnes ». Et donc l'Élysée n'en fait rien, continue effectivement avec la taxe carbone qui faisait payer un prix bien plus lourd de la transition écologique sur les ménages qui sont le moins responsables d'abord des émissions de gaz à effet de serre et puis par ailleurs qui sont le plus dépendants de la voiture individuelle sans jamais faire porter l'enjeu de la transition écologique à celles et ceux qui en sont le plus responsables et qui ont le plus de moyens potentiellement pour contribuer et donc ce risque insurrectionnel il est déjà identifié par les maires ruraux dès le début et donc ils décident peu après l'émergence des mobilisations des gilets jaunes, en tout cas, d'ouvrir leur mairie, effectivement, avec plus de 19 000 cahiers qui seront remplis en mairie. Tout ça s'additionne en vérité aux cahiers de doléances qui sont d'ores et déjà rédigés sur les ronds-points. C'est-à-dire qu'on a plein de collectifs de gilets jaunes qui qui se retrouvent, qui effectivement, comme tu le décrivais, Laure, se échangent politiquement. Ils sont pas, tout le monde n'est pas du même bord politique, etc. Mais c'est un véritable lieu politique où les gens parlent politique, etc. Et tout d'un coup, se saisissent de la question politique. Et donc, de ça doit sortir quelque chose. Donc, c'est pour ça que les cahiers de doléances, au départ, émergent des ronds-points. Et puis, derrière, les maires, constatant ce qui est en train de se jouer un petit peu partout sur le territoire, effectivement, ouvrent leur mairie et laisse la possibilité aux citoyens, citoyennes d'écrire leurs doléances sur des cahiers mis à disposition. Toutes les mairies ne le feront pas, l'organisation ne sera pas la même partout. Dans certaines communes vont avoir lieu dans les mois qui suivent des débats citoyens également. Je crois qu'il y en a eu, également sur Cré. Parfois en présence du maire, parfois sans le maire. Ça peut jouer également dans ce qui sera exprimé par la suite. Et ce qu'on considère être les doléances du grand débat national au sens large, ça comprend tout ça. Ça comprend les cahiers des Gilets jaunes, mais auxquels on n'a pas toujours accès. Certains ont été gardés par les Gilets jaunes, etc. Donc tout n'a pas été consigné aux archives. Ça comprend les cahiers de doléances mis en place par les mairies. Ça comprend les doléances du grand débat national du site internet mis en place par le gouvernement. Ça peut comprendre également les doléances du vrai débat. Donc cette plateforme qui avait été mise en place par les Gilets jaunes pour contrer celle qui avait été mise en place par, par le gouvernement. Et ça comprend également les comptes rendus des plus de 11 000 réunions publiques qui ont eu lieu partout, dans plein de communes de France, pour que les citoyens, citoyennes puissent s'exprimer pendant cette période.
J'ajouterais juste un petit truc sur les cahiers, justement, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir. C'est assez intriguant. Ça va d'un cahier d'écolier écrit à la main avec ou des mairies qui ont fait ça de manière très rigoureuse avec le logo de la mairie, avec le logo de la République. D'autres, c'est des feuilles à l'arrache agrafées comme ça. Mais dans les cahiers, de manière physique, on sent l'urgence de proposer un espace de liberté d'expression et de proposition dédié au peuple.
Ok. D'ailleurs, on écoutera justement une capsule tout à l'heure. Et donc, à quelle époque vous êtes saisi de ce sujet avec ce travail transpartisan qui a mené voilà, à peut-être la publication bientôt, on espère un jour, rendu public?
Alors moi, c'est une longue histoire en vérité, parce qu'avant même que je devienne députée, j'étais engagée dans une association qui s'appelle Rendez les doléances. Et ça faisait suite plutôt justement à mon expérience au sein de notre affaire à tous, à ce lien qu'on avait noué quand même avec plein de collectifs de Gilets jaunes. Et avec cette nécessité, dès avril 2019, qu'on voit que cette petite parenthèse est fermée suite à l'incendie de Notre-Dame, qu'on voit que tout est clôturé, c'est-à-dire que même les cabinets de conseil qui avaient été missionnés pour analyser tout ce corpus, on leur dit finalement effacez vos données, on demande aux chercheurs qui avaient analysé les cahiers de tout effacer, de ne rien rendre public. On se rend compte que là on est sur la fin d'un épisode et que rien finalement ne va en sortir d'un point de vue des politiques publiques, alors même que ce serait ce qui était attendu bien évidemment par toutes celles et ceux qui avaient écrit dans ces cahiers que ce soit lu. Et donc par la suite se sont montées un certain nombre d'associations, de collectifs, etc. Et l'une d'entre elles s'appelle Rendez les doléances. Et donc j'étais engagée dans ce collectif. On avait publié tout un ouvrage demandant la publication des doléances. Et ça, c'était avant que je sois députée. Et donc moi, je deviens députée en 2022. Et je crois que c'est à l'été 2023 que je croise le chemin de quelqu'un qui s'appelle Hélène Desplanques, qui à l'époque est en train de tourner un documentaire sur la question de la publication des doléances. Et elle suit un maire rural qui s'appelle Fabrice Dallongeville et qui est en quête justement de ces doléances qui avait ouvert sa mairie à l'époque et qui se demande où sont ces cahiers qui avaient été noircis à l'époque. Et donc elle me demande en tant que parlementaire, elle me dit mais qu'est-ce qui est possible de faire? Et donc moi à ce moment-là je lui dis bah peut-être qu'on pourrait réfléchir à une résolution. Une résolution, c'est un acte législatif non contraignant mais qui permet d'exprimer la volonté des représentants de la nation auprès du gouvernement, à minima d'obtenir une réponse de la part du gouvernement sur effectivement le fait que toutes ces doléances se soient retrouvées aux archives et qu'on n'entende plus parler, et potentiellement d'exprimer un souhait de restitution, de publication, etc. Et donc ce travail se met en route, on mène une audition à l'anniversaire des Gilets jaunes Donc on était à 3 plus, je suis nulle en calcul, aux 5 ans, je crois, du mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Et donc, on organise une audition à l'Assemblée nationale avec des Gilets jaunes, avec des chercheurs, avec les responsables des cabinets de conseil, avec Fabrice, bien évidemment, avec les maires ruraux, avec des députés de tous les bords politiques. Et à cette occasion, on décide d'écrire une résolution. Cette résolution, on va la déposer par la suite... je crois en janvier 2024, on réussit à la faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ce qui est en vrai le plus difficile à faire à l'Assemblée nationale, c'est de trouver un moment pour pouvoir étudier les textes. Donc là, on trouve un moment, on est très très contents. On avait la date du 19 juin 2024. Or, 10 jours avant, donc le 9 juin 2024, Emmanuel Macron prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc tout ça tombe un petit peu à l'eau. Moi, pendant toute la campagne là, des législatives anticipées, on fait plein de diffusions du film d'Hélène qui était sorti entre-temps, du coup, pour alerter sur cette question-là. Et puis, il y a plein de collectifs qui se forment partout en Drôme pour aller chercher les doléances aux archives départementales. Suite à tout cet épisode, je suis réélue. Et donc, on décide de redéposer la résolution avec des députés qui ont été réélus, puis des nouveaux qui viennent d'arriver. Et on a réussi à la faire inscrire à l'ordre du jour le 11 mars 2025. Donc tout ça aura pris un petit peu de temps, donc cette année. Et elle est effectivement adoptée à l'unanimité à ce moment-là.
Et je vous propose justement qu'on écoute un petit reportage sur un des collectifs qui s'est mobilisé justement là-dessus. C'est la coopérative citoyenne Sayanson qui, en mars, diffusait justement le film Les doléances. Écoutons.
Eh bien, on va commencer cette soirée. Au nom de la coopérative citoyenne, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'être nombreux pour évoquer ce sujet passionnant des doléances. Donc, tout le monde est installé. Nous allons vous lire quelques extraits des cahiers archivés à Valence et choisis en toute subjectivité. Ces doléances concernent le territoire compris entre Dee et Alex.
Attention, le bas-peuple est en colère. À force de serrer les crans de la ceinture avec vos nouvelles taxes, alors que l'on voit les élites se goinfrer de pognon sans verdon, le président, sa famille, le premier ministre, les députés, les sénateurs et toute leur clique devraient redescendre de leur hauteur avant que la guerre civile n'arrive, car elle pointe son nez. Un peu d'humilité vous ferait le plus grand bien. À bon entendeur, salut. Ce qu'il faut, instaurer un mandat présidentiel de 7 ans non renouvelable, revenir à l'ancien calendrier électoral, élection législative au minimum un an et demi après l'élection présidentielle, introduire de la proportionnelle à l'Assemblée, interdire l'entrée des lobbyistes au sein de l'Assemblée nationale et interdire les cadeaux aux élus, quels qu'ils soient, supprimer le Sénat, supprimer la garde républicaine, supprimer les avantages acquis aux anciens élus et ministres de la République. Globalement, réduire le train de vie de l'État. Rendre inéligible à vie les élus n'ayant pas un casier judiciaire vierge. Séparer les pouvoirs. Donner de vrais moyens à la justice. Assouplir les conditions du référendum d'initiative populaire. Respecter les résultats des référendums. Obliger les anciens étudiants de l'ENA à servir l'État comme fonctionnaires. Interdire les allers-retours publics-privés. Nationaliser la gestion de l'eau. Préserver le nombre de nos communes et de nos élus communaux. Préserver les services publics de proximité.
L'immigration doit être mieux contrôlée, car il faut s'occuper en priorité des Français pour le logement, pour le travail, pour les soins médicaux.
Oui, mais ne pas favoriser les conflits qui jettent des milliers de personnes sur les routes et les mers. Ventes d'armes, ententes scandaleuses, interventions plus ou moins malheureuses. S'entendre avec les autres pays d'Europe pour que chacun prenne sa part devant ce drame humain. Traiter correctement les migrants à leur arrivée et examiner rapidement leurs dossiers. Favoriser avec les autres nations le développement des pays où les habitants ont des difficultés économiques, afin qu'ils trouvent du travail sur place. Prendre rapidement des mesures relatives à la transition écologique, car le réchauffement climatique va également entraîner des migrations de populations. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre des taxations en tout genre, des charges qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et qui peinent à embaucher.
Il y en a marre de constater que depuis 40 ans environ, l'État ne montre pas l'exemple avec ses dépenses et ses gaspillages. Il y en a marre de constater encore et toujours les fractures sociales, les inégalités, les paradis fiscaux, les malversations impunies, les salaires exorbitants. Revoyons l'ISF plus juste, avec obligation d'investir dans les entreprises françaises.
Il y en a marre des organismes de crédit à la consommation. Il faudrait plus de contrôle pour éviter d'endetter certains Français.
Il y en a marre que les travailleurs ne puissent vivre correctement avec leur retraite. On arrête de les prélever.
Oui, mais il est temps de venir racler le chemin du passage des Astiers. On ne peut plus rouler. Merci d'avance.
Il faut taxer le gasoil sur les transports aériens et maritimes. Créer un ministère de l'écologie qui devra valider ou non toutes les décisions des autres ministères. Priorité nationale sur le financement des services publics. Revenu minimum d'existence. Interdiction de l'optimisation fiscale et des paradis fiscaux. Séparation réelle des banques d'affaires et des banques de dépôt. Interdiction immédiate du glyphosate. Arrêt du nucléaire et plan de démantèlement rapide des centrales. Et développement massif des énergies renouvelables.
Monsieur le Président, je pourrais continuer longtemps, mais je ne veux pas que ça ressemble à un réquisitoire. Je veux juste vous adresser une supplique. Monsieur le Président, par amour de la France, je vous en conjure, partez ! Bravo.
Écrire mon message à Élysée. Write to the president. Oh la vache. Oui, je suis d'accord. Bonjour, comment... Oh putain, il y a de l'intelligence artificielle. Il y a de l'IA. Vous êtes un particulier. Je suis un élu. Quel est votre message? Donc, monsieur le président de la République... Je me permets d'utiliser cette boîte de contact directe comme celle que je propose aux habitants de mon village pour faciliter les prises de rendez-vous. Oh, je vais peut-être mettre un petit émoticône. Ça se fait peut-être pas, ça. Non, je vais peut-être pas faire ça. Et voilà bientôt 5 ans qu'une forme singulière de contestation sociale a émergé dans notre pays à travers l'expression des Gilets jaunes. Dans son sillage, des centaines de milliers de doléances ont été rédigées. Je considère en effet que vous n'avez pas tenu votre engagement dans la promesse de rendre public et accessible l'ensemble des doléances pensées puis rédigées par nos concitoyens. J'espère que vous prendrez la mesure de cette situation dans l'attente de vous lire ou de vous entendre. Je vous assure de mon profond respect républicain. Fabrice Allongeville, maire d'Auger. Ok. Abonnez-vous à Cocorico, la lettre d'information de l'Élysée. Tous les mois, recevez un condensé de bonnes nouvelles et d'initiatives citoyennes qui font rayonner la France. Oh putain, je vais m'inscrire. Envoyez mon message à la présidence. Votre message a bien été enregistré.
Alors, je suis Annie, j'appartiens à la coopérative citoyenne Sayanson. Voilà, donc, qui est une association sur Sayan, qui a été créée il y a maintenant... presque 6 ans, et qui se propose de soutenir toute action ou réflexion citoyenne partant d'une personne ou plusieurs personnes et respectant une charte qu'on a définie, nous, à la coopérative, dont je vais vous épargner l'étendue. Voilà.
Et donc, vous avez créé un groupe vraiment sur les doléances, du coup.
Oui. Alors voilà, en fait, j'ai vu le film Doléances un peu par hasard à la télé. Comme quoi, la télé, ça peut être bien. Il y a 2 ans, à peu près. Et que j'ai trouvé super. Et j'ai pensé que c'était vraiment approprié, justement, à... mission et au but de la coopérative citoyenne, de soutenir ce genre de film, d'action. Voilà, donc j'ai proposé et puis on a fait comme on fait toujours à la coopérative. Ceux qui étaient intéressés se sont mis ensemble, on a fait un groupe et on a décidé qu'on allait d'abord passer le film.
Et donc dans votre groupe, est-ce qu'il y a des personnes qui faisaient partie des Gilets jaunes ou des personnes qui ont participé à cette doléance ou c'est d'autres personnes qui se sont dit finalement c'est important de parler de ça?
Alors dans le petit groupe proprement dit, il n'y a pas de Gilets jaunes, mais on était tous plus ou moins proches ou sympathisants de Gilets jaunes. Il n'y en a pas non plus qui ont écrit dans les cahiers de doléances. Non, on n'a pas ni Gilets jaunes, ni écriture de cahiers de doléances. On a vu évidemment dans les mairies cette initiative, on a écouté ça avec attention, mais non.
Mais vous avez voulu rendre ça visible, en fait, voilà. ce travail-là. D'accord. Et donc, vous avez fait une collecte, du coup, de nombreux cahiers de doléances.
Dans le groupe, il y a 2 personnes qui sont allées aux archives départementales et qui ont demandé à voir les cahiers de doléances, pas de toute la vallée de la Drôme, mais à peu près de territoire allant de Die à Aix, en gros. Et qui ont pu avoir accès à ces cahiers de doléances. Donc on ne peut pas les sortir, ils ne sont pas numérisés, mais par contre on peut les photographier et les lire sur place. Donc c'est comme ça qu'on en a récupéré tout un paquet qui sont disponibles ici ce soir. Voilà.
D'accord, oui, du coup vous les avez mis sur cette longue table, ouais. Tablée, hein, on peut dire. Donc l'objectif de la projection, donc, c'était mettre un coup de projecteur pour le coup sur ce sujet-là, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis pas seulement, mais c'était aussi faire que les gens se retrouvent, se rencontrent, discutent, parce que c'est réellement un film et puis un débat, enfin un sujet. Qui peut rassembler beaucoup de gens, faire discuter ensemble, provoquer des idées, de la réflexion. Donc c'était aussi cette idée-là, hein. Pas seulement l'idée de faire connaître les cahiers, mais de provoquer de la discussion, de provoquer de la pensée, de la réflexion. Voilà.
Je crois que ça a marché. Hein.
Oui, je pense aussi que ça a marché.
Et donc on a Marie Pochon nous a parlé un petit peu des suites, hein, oui. sur la possible diffusion de ces doléances. Comment votre groupe se situe par rapport à ça? Est-ce que vous avez des idées, des perspectives par rapport à ces doléances?
Alors l'idée, ça serait de créer un groupe doléances affilié aux doléances nationales, puisque il y a un groupe doléances nationales qui existe maintenant depuis peu, que je conseille vivement d'aller voir sur doléances.fr. Et il y a plein de groupes qui se créent partout en France, dont pourquoi pas un ici dans la Drôme, puisque dans la Drôme, il n'y en a pas, hein, pour le moment. Donc l'idée, ça serait ça.
D'accord, donc un appel, un clin d'œil, alors
voilà.
Aux personnes qui s'intéressent à ça.
Exactement, tout à fait.
Bon, l'appel est lancé, donc du coup, pour ceux qui veulent rejoindre votre groupe doléances à la coopérative citoyenne Sayonsonnaise. Merci. Et bien, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à nos questions.
Merci, au revoir.
Dans le même mouvement, Radio Saint-Ferriol a également pu accéder aux doléances de la vallée. Après de multiples échanges avec les archives départementales, certaines étaient finalement libres d'accès et pour d'autres, par contre, il aurait fallu attendre 50 ans. Mais nous avons pu avoir malgré tout une dérogation, même s'il n'existait pas de case dans le formulaire « émission de radio ». Mais voilà, en tout cas, ces données récoltées, c'est entre Aix et Saillant, c'est pas moins de 135 pages qui ont été rédigées sur ce secteur. Et justement, Radio Saint-Ferréol s'est saisi de ses écrits, de vos écrits, comme un porte-voix des citoyens de la vallée. Et vous pourrez justement écouter ces lectures de Deliance sur notre antenne en podcast. Et ça a commencé lundi. Donc venons-en maintenant au contenu des doléances. Tout à l'heure justement, vous parliez des gilets jaunes qui avaient commencé à récolter leurs propres revendications. Pour le rond-point de Cré, c'était, de ce que j'ai pu lire, pas moins de 200 propositions, donc c'est assez énorme. Et d'ailleurs, une partie avait été reprise dans le cahier doléances de Cré. Donc les thèmes, c'était assez large, mais pour les principaux, il y avait la question du pouvoir d'achat, qui était une question centrale avec la hausse du SMIC, les salaires plus élevés, l'instauration d'un salaire maximum à 15 000 euros, les questions des retraites, de la CSG, les questions du logement, mais aussi la réforme de la fiscalité, l'amélioration des services publics. La fin des privilèges des élus aussi, c'est un sujet qui a été souvent repris. La réforme du système représentatif aussi et la transition écologique. Myriam, vous avez travaillé là-dessus. Est-ce qu'il y a une similarité finalement entre les revendications des Gilets jaunes et ce qui était écrit, ce qui est écrit finalement dans les cahiers de doléances, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes.
Alors oui, il y a une similarité, une similitude, merci, entre ce qui a été écrit dans la vallée de la Drôme, même si on est des Gaulois réfractaires, je pense qu'on ressemble aussi à la majorité des personnes qui vivent en monde rural et dans le monde périurbain. Moi, de ce que j'ai lu ici, des synthèses que j'ai pu lire ailleurs aussi, c'est beaucoup quand même des cris de détresse, mais aussi avec des propositions. C'est un cri de détresse face aux inégalités sociales, quelles qu'elles soient, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales. C'est un cri contre les inégalités. Mais ce qui était intéressant dans les propositions, c'était pas juste « je suis pas d'accord et je trouve ça nul ». Je fais des propositions. Et c'est ça, pour moi, la grande force de ces cahiers de doléances, c'est que c'est, comme le dit Proriol, Gilles Proriol, c'est le programme idéal des Français. Et effectivement, on voit ce qui... On n'a jamais eu ça, un corpus de plus de 2 millions de contributions, ça n'a jamais existé. Et au niveau sociologique, c'est quand même très très intéressant. Et on parle de beaucoup de justice, de représentativité, de gouvernance. Et alors, alors que, par exemple, le Rassemblement national et autres partis d'extrême droite parlent toujours d'immigration et de sécurité, ce sont des sujets qui apparaissent entre 3 et 4%, c'est-à-dire rien du tout. Alors qu'on veut nous faire croire que c'est ça qui intéresse les Français. Bah, d'après ce corpus-là, bah non. Les Français souhaiteraient plus de justice sociale, fiscale, plus de mesures environnementales, parce que peut-être qu'ici, on a plus vu des choses concernant l'environnement, parce qu'on est un département bio, écolo, tatatitata. Mais quand même les demandes de plus de justice environnementale aussi ont existé sur tout le territoire.
J'ai noté justement dans votre article une citation d'une citoyenne. Monsieur le Président, soignez la planète pour soigner l'homme. Faites passer la santé de nos enfants avant la finance.
Exactement. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est le cœur, le cœur de ces propositions et de ces demandes. En fait, les gens qui ont écrit ça, que ce soit les Gilets jaunes ou d'autres, ils veulent juste... On veut juste, parce que je me mets à l'intérieur, pouvoir vivre décemment. Donc, il y a le pouvoir d'achat, mais c'est aussi le pouvoir de vivre décemment. La décence, c'est même pas vivre correctement, c'est d'être décent. Et ce qui a été demandé, c'est du respect, c'est de l'écoute. Et à la place de ça, il y a eu de la non-écoute et de la violence.
Et au final, en fait, pourquoi la prise en compte politique est-elle aussi difficile alors ?
Alors, ce ne sont pas mes mots, mais je crois que je suis un peu d'accord avec lui. Donc, Gilles Proriol, toujours, lorsqu'il est allé présenter les analyses, les analyses de son cabinet de conseil, tout le monde a rigolé, et même la gauche. Moi, je lui ai posé la question, je dis comment ça se fait que ces revendications, ces propositions n'aient pas été reprises par la gauche, les partis de gauche. On a quand même eu, depuis les Gilets jaunes, des présidentielles, des législatives deux fois, des européennes, et très, très, très peu de femmes et d'hommes politiques ont repris ou se sont revendiqués d'être des représentants des cahiers de doléances, de dire bah, ça, je l'ai pris dans les cahiers de doléances. C'est arrivé vraiment très, très peu. Et Gilles Proriol dit, en fait, le personnel politique ne supporte pas ce qui vient du bas. Si ce n'est pas eux qui ont décidé, si ce n'est pas eux qui proposent, c'est insupportable pour une grande majorité. Et je pense que là-dessus, il a pas tort. Comme au moment des Gilets jaunes, la majorité du personnel politique et médiatique a eu peur de ce mouvement parce qu'on ne savait pas qui c'était, parce que c'était le peuple. Mais le peuple, c'est quoi? C'est ceux qu'on n'entendait jamais. Et là, à un moment, ils ont osé prendre la parole. Ils ont osé dire moi, j'en ai marre. Je veux un RIC. Je veux être représenté au sein des élites politiques et médiatiques. Et c'est pour ça qu'on leur a tapé dessus. Parce qu'à un moment, ils ont osé dire. Ils ont osé dire j'ai le droit au respect comme tout un chacun. Et c'est vrai que pour moi, ça reste une question, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui prennent soin de leurs concitoyens. Comment ça se fait que les partis de gauche n'ont pas dit on est allé voir ce qui a été demandé, et nous, notre programme, le programme du NFP, par exemple, il s'est basé sur les revendications des cahiers de doléances. Ça a été très, très peu entendu.
Marie Bochon, qu'est-ce que vous avez pensé du contenu de ces doléances, même si c'est une question tellement large?
Peut-être que je voulais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est un point assez important. Moi, je sais que l'été dernier, lorsque toute la gauche était en train de réfléchir à qui est-ce qu'on pourrait proposer comme Premier ministre, même si Emmanuel Macron, apparemment, de toute façon, n'en avait cure, il n'empêche que, effectivement, mon message, au vu du travail que j'avais pu faire les mois précédents, mon message, c'était celui-là. C'était de se dire, il faut absolument que les propositions que nous fassions en tant que nouveau Front populaire, ce ne soient pas les propositions de la gauche contre celles de la droite, au vu des résultats des élections législatives. C'est-à-dire qu'on avait quand même beaucoup de gens qui avaient voté pour l'extrême droite et beaucoup de gens qui se sentaient humiliés et avoir perdu alors même qu'ils avaient gagné. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui se passait au 7 juillet qui n'était pas... Alors, la gauche est arrivée en tête des élections, certes, mais on avait quand même un pays qui était très fracturé, une assemblée qui était très fracturée. Et donc, moi, j'estimais que le Nouveau Front Populaire ne devait pas se présenter comme un camp contre l'autre et qui représenterait une France contre une autre. Et je pense que ce n'était pas la bonne posture. Et je disais, notre programme, c'est celui qui est inscrit dans les doléances, en vérité, pour beaucoup. Donc, disons que c'est la parole des Françaises et des Français que nous portons. C'est pas celle de la gauche contre un autre camp. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été repris. Donc, je le regrette aussi. Et effectivement, je pense que c'est de la responsabilité de l'ensemble des partis politiques que de travailler là-dessus. Moi, ce que je vois en termes de blocage également, c'est que je pense que ça correspond pas, ce qui se trouve dans les cahiers de doléances ne correspond pas à l'a priori ou la vision qui existe à Paris de ce que nous sommes dans les campagnes. Et ça ne correspond pas à la vision, à la case qu'ils ont dessinée pour cela. Le meilleur exemple, je repars de mon expérience quand on dépose l'affaire du siècle. Donc, on est à ce moment-là, des mobilisations des Gilets jaunes. On a un rendez-vous avec François de Rugy, qui est alors ministre de la Transition écologique suite au dépôt de notre recours, qui nous dit « Mais écoutez, c'est injuste, vous nous attaquez en justice, nous, gouvernement, alors même qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut, mais regardez, les Gilets jaunes, les Français n'en veulent pas de la transition écologique. » Et donc, il y a cette vision d'une certaine classe politique aussi, gouvernante, de campagnes qui seraient conservatrices, qui n'ont rien envie de changer de toute façon, qui sont faites de chasseurs, d'agriculteurs passéistes et qui n'aiment pas l'écologie. Il y a cette vision-là quand même, qui est quand même très instituée. Moi, je le vois chaque jour là quand je siège. Et c'est bizarre pour les gens que je sois une rurale écologiste. Alors même qu'il y en a plein. Enfin, moi, je rencontre tous les jours des gens qui habitent dans les campagnes, qui ne se revendiquent pas comme ça, mais qui sont écologistes en vérité, ou qui ont des valeurs progressistes, ou qui ont cet attachement-là. Et, mais ça ne correspond pas à la case dans laquelle beaucoup veulent nous mettre d'une vision un peu simpliste de la société. C'est-à-dire qu'il y a des woke, bobos, progressistes, mondialistes dans les grandes villes, et puis dans les campagnes, c'est des gens avec qui on peut pas franchement travailler et avec qui on peut pas franchement, à qui on peut pas franchement demander
c'est
des choses.
C'est du mépris de classe, tout simplement.
Ah, ça s'appelle du mépris, ça s'appelle de l'humiliation, et en fait c'est aussi le fondement de toute la politique macroniste, je crois, depuis depuis 8 ans. Et donc ça explique pourquoi il n'a rien été fait en vérité de ces cahiers, parce que ça ne correspond pas à effectivement la politique qui est menée ces dernières années.
Mmh. Et pour terminer, comment vous voyez, vous, justement, la suite justement de ces cahiers et, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les conséquences peuvent être importantes, hein, de l'oubli, finalement, de toutes ces doléances.
Oui, puis on parle quand même de la plus grande consultation d'expression libre de notre histoire depuis la Révolution française. Donc c'est un joyau historique et démocratique absolument majeur. Donc peut-être juste pour faire un petit point d'étape, suite à l'adoption de la résolution en mars dernier, début mai a été publié un décret permettant la levée de toutes les dérogations, de tout le droit des archives, c'est-à-dire qui empêchait un certain nombre d'acteurs d'avoir accès aux archives départementales. Donc tout cela a été levé, c'est-à-dire que maintenant, tout citoyen peut se rendre aux archives départementales ou aux archives nationales et aura accès à l'ensemble du corpus. Donc ça, c'est une première victoire. Et par la suite, là, aujourd'hui, nous siégeons, moi je siège par exemple avec d'autres parlementaires, avec des élus locaux, etc., dans un comité de pilotage qui est sous l'égide du Premier ministre désormais et qui vise à décider de quelle manière nous souhaitons publier l'ensemble du corpus des doléances en open source, sur un site internet en open source, ce qui permettrait à chaque Français, chaque Française d'avoir accès de son canapé, sur son ordinateur à l'ensemble des doléances, ce qui permettrait peut-être, je l'espère, d'irriguer aussi le débat politique que nous devrions avoir sur la base de ces propositions.
Merci.
Le débat politique et médiatique.
Oui.
Parce que c'est, moi je tiens à le dire, je trouve que c'est un sujet qui est sous-médiatisé. Et encore, comme il existe une élite politique, il existe une élite médiatique. Et quand on parle de la France rurale et pays urbaine, il y a toujours une caricature qui est faite de ces populations. Et j'espère que quand ça sera ouvert en open source, mes confrères et mes consoeurs prendront l'ampleur de ce que ça a été et de ce que c'est ce corpus social.
Comme on le disait hors micro, on pourrait faire une deuxième émission là-dessus. Donc on verra si on fait un acte 2 une prochaine fois. En tout cas, merci à vous beaucoup pour votre participation. Donc je rappelle donc Laure Myriam Rouvier, qui est journaliste indépendante, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de cahiers d'oléances. Marie Pochon, députée de la 3e circonscription de la Drôme. Donc c'était La Collective sur Radio Saint-Fayol au 94.2 pour une émission spéciale sur les cahiers d'oléances de la vallée de la Drôme. Donc avant de rendre l'antenne, je vous invite à écouter dans les mois à venir les lectures des doléances, celles qu'on a récupérées entre Alex et Saillon. Et je remercie d'ailleurs chaleureusement les lectrices et lecteurs qui ont prêté leur voix justement pour les citoyens rédacteurs de ces doléances. C'était aujourd'hui pour animer cette émission Loïc et Manu à la technique. Bonne journée à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Saint-Ferréol.
La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, La Collective.
C'est des interviews.
De l'actualité.
Des chroniques, des reportages.
De la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix.